écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur présente
Science et conscience.
François Conneau.
Oui, bonjour et bienvenue. Donc le titre aujourd'hui peut paraître quelque peu hérétique vis-à-vis de ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir sur les méthodes scientifiques, mais il se trouve que là où le commun des mortels classerait les sciences en deux catégories, ce qu'on appelle en général les sciences humaines d'un côté versus de l'autre côté les sciences dites de la nature et de la vie, dont la physique, la chimie, la biologie, tout ça. Et en fait, les sociologues ont l'usage de distinguer plutôt ce que l'on appelle les sciences molles des sciences dures. Entendez par là, les sciences molles seraient, selon cette classification des sociologues, les sciences humaines, et de l'autre côté, les sciences dures seraient plutôt les sciences de la nature et de la vie. Alors en fait, d'où vient cette distinction de la part des sociologues? Mais en fait, elle provient tout simplement du cœur méthodologique des communautés scientifiques de part et d'autre. C'est-à-dire que les sociologues appellent les sciences dures, et bien toutes les sciences qui basent leur méthode en raccrochant en fait toute la partie méthodologique à une mathématisation de leur modèle. Voilà, c'est-à-dire que est dite dure, et bien toute science dans laquelle on commence par poser des bases formelles, ce qu'on appelle des axiomes, et ensuite à partir de ces bases formelles, de ces fondations d'une science, eh bien on va poser des règles de déduction comme une sorte de grammaire qui permet de déduire à partir des axiomes mais des couches successives d'énoncés qu'on appelle démontrés ou vrais, qu'on appelle couramment des théorèmes, et à partir d'un ensemble de théorèmes, ce qu'on appelle le corpus d'une théorie, eh bien on vérifie, on soumet ces théorèmes, ces énoncés, eh bien au feu, couche après couche, on les soumet au feu de l'observation en regardant si l'observation confirme ou infirme les prédictions de la théorie. Alors si ce sont des énoncés qui sont faits a priori, on appelle ça des prédictions de la théorie, et si c'est évidemment fait a posteriori. Voilà. Donc en fait, évidemment, ça ne fait pas un pli, hein, cette classification est effectivement assez bien reconnue. Et en fait, il se trouve que là-dedans, on va pouvoir classer dans ces sciences dites dures, la physique, ses nombreuses branches, la mécanique, l'optique, l'électromagnétisme, etc. Plus la chimie, qui rentre clairement dans le cadre des sciences dures, et on étend couramment, en plus, cet ensemble des sciences dures, aux sciences dites du vivant, c'est-à-dire les biologie végétale, animale, du monde microbien, viral, etc., et y compris la médecine, en fait, voilà. Et donc, du coup, on arrête classiquement cette distinction entre sciences dures et sciences molles aux sciences humaines. Donc, du coup, qui dit sciences dures dit, en fait, formalisme, et qui dit formalisme dit équation. Alors, équation au sens large, c'est-à-dire au sens de mathématisation de la démarche. Et donc, du coup, à partir de cette extension, tout modèle formel ou toute équation, du coup, parmi toutes les sciences qui s'expriment à l'aide de modèles d'équations, à partir de modèles mis en équation, il se trouve que ce sont des sciences qui aussi permettent une autre application pratique, c'est que du coup, on peut traduire très facilement leurs prédictions ou leur champ d'application en langage informatique, d'où effectivement l'utilisation massive d'ordinateurs dans des champs massifs de la physique. Par exemple, pour citer la prévision météorologique, tous les jours, quand vous voyez une prévision météorologique à la télé, c'est fait à l'aide d'ordinateurs, mais qui ont digéré, dans lesquels on a codé les équations, dans lesquelles on a les équations de l'hydrodynamique, pour parler justement de la dynamique atmosphérique du climat. Voilà, ça c'est un exemple d'élaboration ou d'utilisation de modèles mis en équation. Du coup, les sciences dures sont soumises, paraissent en tout cas soumises à cette nécessité de passer systématiquement par des équations pour voir leur application progresser. Mais du coup, on peut se poser la question, on peut renverser la question, donc là on va adopter un point de vue un peu philosophique. En fait, dans certaines philosophies, on va dire spiritualistes, dans certaines théologies, certaines philosophies affirment qu'il existe des formes de pensée qu'on appelle non-verbales, c'est-à-dire non-formalisées. Et la question qu'on peut se poser par rapport à cette affirmation de certaines philosophies, on va dire spiritualistes, c'est de savoir s'il existe des champs des sciences dures dans lesquels on puisse utiliser des modèles qui ne soient pas formels, c'est-à-dire qui ne soient pas mis en équation formellement et qui donc échapperaient à ce formalisme de manière ponctuelle ou pas. Voilà. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire des sciences, c'est que effectivement, ça marche. ça marche. Il existe des exemples. Alors évidemment, ils sont pas full, mais en réalité, presque, on pourrait presque dire en histoire des sciences que pratiquement toute la naissance de toute théorie physique, elle passe toujours par un stade dans lequel il est non verbal, dans lequel en fait le chercheur, le découvreur, eh bien, va passer par une phase qu'on appelle intuitive, dans laquelle en fait il va élaborer son concept sans passer par un mode verbal, et donc ça va passer par des images, des figures, des intuitions, voilà. Donc alors on peut citer, alors il y a deux exemples en histoire des sciences qui sont bien connus de ça. C'est d'abord la naissance de l'optique. L'optique naît au Xe siècle, elle est achevée, on va dire, dans sa version moderne au XVIe siècle. Et puis, il y a une autre théorie, qui est la théorie de l'électromagnétisme, qui est née au XIXe siècle et qui a été réellement achevée au XXe siècle. Mais en fait, pour ces deux théories, eh bien, le cheminement a été long et on est passé au départ par des stades non formalisés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient absolument pas mis en équation, ce qui fait du coup que les vrais découvreurs de ces théories sont un peu passés à la trappe, parce qu'ils ne sont pas formellement reconnus du coup par le commun des physiciens comme étant les découvreurs de ces théories. Alors, les lois de l'optique ont été établies par le savant arabo-perse Al-Hazem. Et donc, il a publié en fait un premier corpus très complet de la théorie de l'optique au Xe siècle en langue arabe dans le califat à l'époque. Voilà. Donc, c'est un ouvrage extrêmement complet dans lequel, alors, vous pouvez le télécharger sur le site de l'université de Strasbourg. Vous cherchez le Thesaurus Opticae d'Al-Hazem. Donc, il est entièrement numérisé. Voilà, il a été traduit alors en langue latine. Enfin, on comprend à peu près ce qu'il s'y raconte. Et donc, dans ce traité d'optique d'Al-Hazem, on y a énoncé clairement le principe de la propagation de la lumière, et la lumière est composée de grains qui se propagent en ligne droite si rien ne vient perturber leur course. La description des propriétés optiques des milieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces grains se propagent dans des milieux, alors Al-Hazem distingue des milieux transparents, des milieux semi-transparents qu'il appelle diaphanes, et puis des milieux absorbants. Et puis toutes les lois, Al-Hazem énumère, établit et démontre toutes les lois de base de l'optique qui sont les lois de la réfraction, de la réflexion et les lois de la propagation. Donc c'est un ouvrage très complet. Tout est déjà écrit au Xe siècle. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, cet ouvrage, pour que tout le monde l'ait oublié dans le monde occidental? Tout simplement, c'est qu'on n'y trouve aucune équation. Pour la bonne et unique raison que les équations n'existaient pas à l'époque. L'algèbre, algebra en arabe, a été inventée à peu près à l'époque d'Al-Hazem par Al-Khwarizmi. Mais il se trouve qu'à l'époque, l'algèbre d'Al-Khwarizmi n'était pas suffisamment élaboré pour permettre à Al-Hazem, qui était ingénieur en fait, c'était un grand ingénieur du califat. Donc du coup, mais comment s'exprime Al-Hazem dans son traité d'optique? En fait, il utilise exclusivement la géométrie, qui était quelque chose d'établi depuis l'Antiquité gréco-romaine. Donc du coup, voilà, tout est écrit dans cet ouvrage en termes de figures géométriques, de construction à la règle, au compas. C'est très savant, c'est très rigoureux, tout marche bien. Toutes les lois de l'optique peuvent se faire à la règle et au compas dans cet ouvrage, y compris les indices de réfraction, la vitesse de propagation de la lumière. Tout est fait à l'aide de très belles constructions géométriques. Et l'ouvrage a été traduit en latin au XVIe siècle à la demande de l'évêque d'Augsbourg, ensuite lu par les deux auteurs que j'ai cités précédemment, qui sont Descartes d'un côté en France et Snell en Hollande de l'autre. Et ils ont traduit en fait en langage algébrique, c'est-à-dire en équation, l'ouvrage d'Al-Hazem. Alors sans trop le citer d'ailleurs, ce qui est quand même un peu dommage, on pourrait presque parler d'ailleurs d'usurpation hein, dans ce cas-là. Mais du coup, ce qu'il faut bien remarquer, ce qu'il y a de bizarre, c'est que pour tous les Européens ou tous les Occidentaux, l'optique a été inventée par Snell et Descartes, mais aucun Européen ne remarque que, en fait, à l'époque de Snell et Descartes, on importait déjà des pays arabes les télescopes qui avaient été inventés là-bas, les lunettes militaires qui avaient été inventées là-bas, les microscopes qui ont été inventés en Hollande, mais à partir des inventions arabes, et puis les lunettes de vue, hein, les lunettes qui permettaient de corriger la vue vieillissante, notamment pour les presbytes. Donc, et toutes les tables d'application qui étaient utilisées dans les observatoires, eh bien, étaient toutes antérieures aux lois de l'optique de Snell et de Descartes. On pourrait citer dans le même cas, mais on va le faire de manière beaucoup plus rapide pour l'électromagnétisme, hein, l'électromagnétisme a été décrite, une théorie qui a été décrite complètement et intégralement sans équation par Faraday, grand physicien, mais expérimentaliste. C'est-à-dire que lui, il décrivait ce qu'il observait par des figures, par des dessins, par des schémas. Et pour mettre les découvertes de Faraday en équation, il a fallu attendre près d'un siècle, c'est-à-dire Albert Einstein, enfin d'abord les physiciens Hertz, Maxwell, Hamilton, puis enfin Albert Einstein, pour mettre complètement l'électromagnétisme en équation près d'un siècle plus tard. Évidemment, ça ne veut pas dire que les équations soient inutiles, bien au contraire, elles sont utiles et même indispensables aujourd'hui pour établir des ponts entre les disciplines, parce qu'effectivement, l'inconvénient d'écrire un corpus de théorie uniquement, par exemple, avec des figures géométriques ou des diagrammes, le problème, c'est que ça ne facilite pas forcément les comparaisons entre différentes disciplines. Voilà, et du coup, tout ce qui est raisonnement par similitude, par analogie, n'existera pas ou ça ne serait pas aussi commode si l'on se dispense du formalisme des équations. Alors, l'un des plus grands exemples actuels de physique sans équations, sans modèle, eh bien, elle est en train de naître aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les inventions faites par des intelligences artificielles. Alors, je ne parle pas d'ordinateurs auxquels on a fait digérer les équations élaborées par des humains. Je vous parle d'ordinateurs auxquels on va soumettre, donc d'intelligence artificielle, auxquels on va soumettre un problème de physique donné, comme par exemple, dessine-moi un pont avec tel type de poutre et susceptible de supporter telle charge. Eh bien, on va demander à l'intelligence artificielle de dessiner le pont. Et l'intelligence artificielle va apprendre par essai-erreur et redécouvrir toute seule ce qui permet de dessiner un pont qui réponde aux contraintes données et avec les matériaux donnés. On peut faire même dessiner des machines. Récemment, à l'université d'Harvard, il y a une équipe qui a réussi à redessiner complètement un moteur d'avion, mais à faire redessiner un moteur d'avion par une intelligence artificielle qui ne connaît rien au moteur d'avion au départ. Ça ne veut pas dire que ça va donner des moteurs meilleurs que ceux qu'on sait faire, mais au moins ça montre qu'effectivement le système est un peu analogue au cas qu'on vient de citer d'Alhazen ou de Faraday, d'un humain qui est devant une théorie, qui la décrit avec ses mots, et puis ensuite c'est aux autres de les traduire en équation. Et donc du coup, ces systèmes-là fonctionnent sans aucun théorème ni aucune équation programmée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, nous vous remercions de votre attention et à très bientôt.